franceinter.fr. Tous politiques, le rendez-vous politique de France Inter. En partenariat avec Le Parisien, aujourd'hui en France, et les signatures de la presse étrangère. Marc Fauvel.
Bonsoir à tous, bonsoir Laurent Berger.
Bonsoir.
Secrétaire général de la CFDT, merci d'être avec nous ce soir dans Tous Politiques. Un président qui bat des records d'impopularité, son ex-compagne qui règle ses comptes en librairie. Et oui, et pour couronner le tout, un secrétaire d'État fraîchement nommé qui prend la porte pour avoir oublié encore, et oui, de déclarer ses impôts. Rentrée politique ahurissante en ce début septembre, alors que la courbe du chômage, elle, décidément ne veut pas changer de cap. François Hollande a-t-il encore le pouvoir de réformer la France, d'imposer ses choix? Les patrons jouent-ils vraiment le jeu du pacte de responsabilité? Voilà les thèmes qui vous attendent ce soir. Pour vous interroger, Ana Navarro Pedro du grand hebdomadaire portugais Visao, que je salue, bonjour.
Bonjour, bonsoir plutôt.
Et Henri Vernet du Parisien, aujourd'hui en France. Bonsoir Henri.
Bonsoir.
Sans oublier bien sûr les questions des auditeurs de France Inter, dès maintenant sur le réseau social Twitter, accompagné du mot-clé Tous Paul. Questions ou réactions à vos propos en direct jusqu'à 19h.
France Inter, Tous Politiques.
Laurent Berger, un mot d'abord de la situation politique. Jamais un président de la Ve République n'avait subi une telle défiance de son opinion. 13% d'opinion favorable dans une enquête TNS Sofres publiée en fin de semaine pour François Hollande. Est-ce que le président peut tenir comme ça? Est-ce qu'il est encore en état de présider?
En tout cas, il est président. Et ce qu'on attend d'un président, moi ce que j'attends d'un président de la République, c'est qu'il agisse, c'est qu'il obtienne des résultats enfin sur le front du chômage notamment. Et le problème de la période actuelle, c'est qu'il y a une crise économique et sociale très rude, on le sait, avec 5 millions de chômeurs, avec beaucoup de risques sur les entreprises, avec une situation économique lourde, peu de croissance. Et à cela s'ajoute un climat politique détestable qui crée de la désespérance sociale. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans une situation où les citoyens ne savent plus à qui se confier, à qui confier leur destin. Et je crois qu'à force, dans notre société et dans le monde politique, à force de regarder l'avenir, on oublie que l'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver. L'avenir, c'est ce que nous construisons aujourd'hui.
Est-ce que l'homme de la situation, c'est toujours François Hollande? Est-ce qu'il peut bouger un orteil aujourd'hui?
Mais c'est le président. C'est le président de la République et les institutions font que c'est le président jusqu'en 2017. Je n'ai pas envie de parler de 2017. J'ai envie de parler de la situation des gens aujourd'hui. Je crois que c'est ça dont on souffre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de politiques qui sont sur que va-t-il se passer dans les mois qui viennent en termes de dissolution ou pas? Que va-t-il se passer en 2017? Qui sera candidat? Que se passe-t-il aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est des créations d'emplois qui n'arrivent pas. C'est un chômage qui s'alourdit. C'est des gens qui sont inquiets. Et qui sont inquiets, pas tant sur leur situation individuelle, quand on regarde les sondages, mais sur leur situation collective, sur le destin collectif. Et il n'y a aucun politique dans les sondages qui a plus de 20% de cote de confiance dans son avenir dans les sondages. Ça veut dire qu'il y a une défiance à l'égard de la classe politique. C'est dangereux en termes de démocratie.
Henri Vernet.
C'est le président, mais c'est le patron encore. Il a une majorité qui rejoint, mais il n'est pas assuré de pouvoir faire passer ses textes. Aujourd'hui, qui est aux manettes? François Hollande, Manuel Valls?
Eh bien, il y a le président, c'est François Hollande. Le Premier ministre, c'est Manuel Valls. Leur responsabilité, c'est de faire passer les réformes qu'ils entendent faire passer avec la majorité. Moi, je ne veux pas commenter la situation politique en termes de qui est le mieux placé ou pas. Je constate qu'il y a un président et un Premier ministre et une majorité et qu'ils doivent s'arranger pour faire en sorte qu'il y ait des résultats, des actions concrètes pour les citoyens aujourd'hui, pour les salariés. Et ça, je trouve que ces dernières périodes, ces derniers 15 jours, voire plus, eh bien, on ne parle pas des gens, on ne parle pas des citoyens. Donc les citoyens, ben, au bout d'un moment, ils vont aller voir ailleurs et c'est un gros, grave danger.
Ana Navarro Pedro.
Certes, Monsieur Berger, mais est-ce que vraiment, dans le climat politique détestable que vous venez de décrire, est-ce que le président Hollande a encore une capacité quelconque de changer le cours des choses, de faire en sorte que le chômage baisse, de faire en sorte que les réformes que vous appelez de vos voeux soient appliquées? Est-ce qu'on, à l'étranger, on pense plutôt à quelque chose comme Jacques Chirac? À la fin de Jacques Chirac, on pense à une sorte de chiracisation de ce régime, de cette présidence?
Il y a une impopularité plus grande encore, mais il y a comment se changent les choses dans notre pays? C'est qu'in fine, que ce soit par la concertation, la négociation, in fine, ça passe devant le Parlement pour changer les choses. On a besoin de quoi? On a besoin d'une politique économique qui permette de relancer l'investissement et l'emploi. On a besoin d'une politique sociale qui permette de protéger les plus fragiles, notamment les chômeurs, nous y reviendrons peut-être. Et puis on a besoin d'infléchir la politique européenne pour davantage d'investissements en Europe et revenir sur le rythme des déficits publics.
Pour cela...
Et là, aujourd'hui, en termes d'institution. Le président de la République et le Premier ministre ont toutes les manettes en main, à condition qu'on parle des gens, qu'on parle des vrais sujets, qu'on soit dans une démocratie mature qui arrête une vision binaire. Aujourd'hui, par exemple, il y a une espèce de débat théorique en permanence. L'entreprise est-elle un ange, est-elle un démon? Faut-il une politique de l'offre, une politique de la demande? Comme si les choses étaient noires et blancs à chaque fois.
Donc merci aux institutions qui sauvent François Hollande pour l'instant et qui vont lui permettre
non,
pour vous de continuer,
d'abord,
de continuer le quinquennat.
D'abord, c'est les institutions qui sauvent la démocratie. Non, je dis qu'il faut réélever le débat politique, réélever le débat social et qu'aujourd'hui, nous sommes en danger. Notre démocratie est en danger. Et c'est pas, ça ne concerne pas la personne de M. Hollande, qui, in fine, est là et passera. Ça concerne nos institutions, notre démocratie et notre capacité à mener les débats, à mettre les choses sur la table, à considérer le peuple français comme un peuple mature, qui est capable de comprendre les compromis, comprendre les choix. Et ça, il leur manque ça aujourd'hui.
Ceux qui disent qu'il faut dissoudre et convoquer des élections anticipées, que répondez-vous ?
Mais ce n'est pas mon problème. C'est le, si,
pour relancer,
si, si
pour refonder ce quinquennat.
Mais si dissolution il y avait, le chômage resterait à 5 millions de chômeurs, la situation de croissance resterait faible, parce que, bien sûr qu'il y a un problème de gouvernance, on le voit, on ne peut pas être à 13% sans raison, mais il y a d'abord un problème français qui est que nous affrontons pas collectivement les défis qui sont devant nous, et que chacun s'amuse, amuser n'est pas forcément le terme, en tout cas se contente de renvoyer la responsabilité à d'autres. Il faut que chacun se demande quelle est sa part de responsabilité dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. La CFDT le fait, et l'a fait depuis de nombreux mois, en disant, voilà, nous sommes d'accord pour, par exemple, redonner des marges aux entreprises, mais ça implique une responsabilité des entreprises. Eh bien, il faut que chacun, majorité, opposition, patronat, organisation syndicale, se pose cette même question.
Problème de gouvernance, dites-vous, Laurent Berger, problème également d'image de François Hollande, écorné, abîmé, on ne trouve même pas le bon mot, hein, par le livre de son ex-compagne cette semaine, Valérie Trier-Weller. Merci pour ce moment, avec cette phrase terrible dans la bouche, sous la plume de Valérie Trier-Weller. C'est un président qui n'aime pas les pauvres, qu'il qualifierait même en privé, sur le ton de la boutade, de sans dents, dédenté. Ça correspond au François Hollande que vous connaissez, vous ?
Non, mais c'est effroyable. Enfin, on ne va pas commenter ce qui est finalement, ce qui n'est pas à l'honneur de notre République. C'est-à-dire que ce livre, je ne l'ai pas lu, évidemment, mais je n'ai pas envie de commenter d'abord ce que je n'ai pas lu. Il y a beaucoup de choses plus intéressantes à lire. Par exemple, ce week-end, j'ai lu l'essai de Mona Ozouf sur Jules Ferry. Je trouve qu'on trouve beaucoup plus de choses en termes de sens de notre République. Et ça, je n'ai pas envie. Non.
Mais cette phrase, vous savez qu'elle est posée maintenant.
Mais
on
ne sais pas
jamais
si
la réalité.
Ou pas.
Voilà,
elle
est posée
pas,
sur la place publique aujourd'hui. Est-ce que ça colle au François Hollande que vous connaissez ?
Non, je vous le dis, non. Y compris, ça ne colle pas à par exemple, des actions qui ont été menées, des décisions qui ont été prises lors de la conférence sociale sur lesquelles la CFDT a beaucoup pesé, pour une négociation, par exemple, en direction des personnes les plus éloignées de l'emploi, ou pour la mise en place de la garantie jeune qui permet à des jeunes d'être accompagnés en même temps qu'ils perçoivent une allocation. Voilà. Moi, comme personne ne sait s'il l'a dit, on ne va pas commenter quelque chose.
François Hollande est un homme qui aime les pauvres.
J'en sais rien. C'est le président de la République. Je veux dire, j'espère qu'il considère que notre pays, c'est 68 millions de concitoyens et qu'il nécessite tous le respect, et notamment les plus fragiles, pour réduire les inégalités.
Anna Navarro-Pedro de l'hebdomadaire Visao, au Portugal.
Terre à terre, quand vous êtes avec François Hollande, dans vos contacts avec lui, est-ce que vous sentez une préoccupation vis-à-vis des plus défavorisés dans la société française ? Est-ce que c'est quelque chose qui vient avec régularité, avec emphase dans son discours en privé ?
Et vous savez, répondre à cette question, ça serait soit être suspecté de vouloir le défendre, et moi, je n'étais pas, soit suspecté de vouloir l'enterrer un peu plus. Mmh. Écoutez, moi, je sais une chose. Dans le plan de réduction des dépenses publiques qui était prévu au printemps, il était prévu de geler l'augmentation du RSA, qui était prévu, la revalorisation du RSA, de Revenu Solidarité Active, qui était prévu de 2% en septembre. Je me suis, avec la CFDT, insurgé contre ce gel, en disant il y a besoin de soutenir aujourd'hui dans notre pays les plus fragiles. Je constate que le gouvernement, et donc le président de la République, ont mis fin à ce gel et ont revalorisé le RSA, c'est tout.
Mais sur l'homme lui-même, est-ce que donc vous le côtoyez, vous parlez avec lui, est-il c'est un homme sincère ou est-ce qu'il est menteur, comme l'a dit Arnaud Montebourg, comme le redit son ex-compagne ?
Vous savez, je
ça, ce sont des faits.
c'est des faits, les déclarations des uns et des autres. J'y vais pour porter les revendications de la CFDT et des salariés. Je n'ai aucun contact autre que professionnel, si je puis dire, dans le cadre de ma responsabilité avec le président de la République. Moi, je constate qu'à un certain nombre de points sur lesquels j'avais dit il est hors de question d'aller sur ces choses-là, notamment... il a tenu parole. Après, moi, je ne suis pas dans la vie des gens et je crois qu'il faut qu'on s'extrait un peu de ça.
Laurent Berger, un secrétaire d'État nommé il y a 9 jours, qui démissionne pour avoir oublié, apprend-on, de déclarer ses impôts durant 3 années de suite. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il y a quelque chose de pourri aujourd'hui dans notre système?
Non, mais il ne faut pas remettre en cause le système pour des dérapages individuels, même s'il y en a plusieurs. Je suis affligé, c'est scandaleux. C'est scandaleux, il n'y a rien qui puisse justifier ça. Et évidemment qu'il ne pouvait pas rester au gouvernement. Et évidemment que cette personne, elle doit s'interroger sur sa participation à l'action publique.
Qu'il reste député.
Au moment... il appartient à un parti politique, ce monsieur Thévenoud. C'est à ce parti politique, c'est-à-dire au Parti Socialiste, d'influer dans ce sens. Mais enfin, je verrais mal quand même qu'ils reviennent à l'Assemblée. Je le dis franchement, c'est le même moment où on a tous reçu nos feuilles d'impôt. Les Français ont tous reçu leurs feuilles d'impôt. Et un député dit qu'il a par négligence pas déclaré ses revenus. Je trouve ça hallucinant.
Donc, clairement, il ne peut pas rester député, dites-le, clairement.
Oui, bien sûr, mais ça ne m'appartient pas à moi. Je veux dire, moi, je ne suis pas le grand juge.
Oui, mais si vous avez un message à lui adresser, vous lui dites...
Mais moi, je pense que son parti politique devrait lui adresser ce message-là. Et je pense qu'effectivement, aucun citoyen français ne peut comprendre qu'il reste député.
Monsieur Berger, aujourd'hui, on a entendu le Premier ministre français dire le Front National est aux portes du pouvoir. Des sondages nous indiquent que Marine Le Pen pourrait être élue, enfin qu'elle serait en première place en tout scénario confondu pour les présidentielles. On parle de dissolution. À l'étranger, on se dit s'il y a une dissolution. En France, oui, peut-être que le Front National pourra, malgré le scrutin majoritaire à 2 tours, pourra éventuellement être au pouvoir. On a l'impression que les dirigeants de ce pays ne s'en soucient pas, ne leur semble pas crédible cette hypothèse et donc qu'ils ne l'incluent pas dans leur raisonnement. Moi, je voudrais savoir si vous l'incluez dans votre raisonnement. Je voudrais savoir si le Front National est au pouvoir, vous, secrétaire général de la CFTT, est-ce que vous pouvez travailler avec ce parti au pouvoir? Comment les choses pourraient-elles se passer?
La première partie de votre question, je vais y répondre. Puis la seconde, dans ma réponse, je vous expliquerai pourquoi je n'y répondrai pas. Je m'explique.
Vous me décevez.
C'est-à-dire que je ne conçois pas qu'aujourd'hui, on soit en train de commenter un avenir possible, malheureusement, sans essayer de le combattre. Je m'explique. Le Front National, il se nourrit de quoi? Il se nourrit des caricatures, il se nourrit des non-dits dans notre débat démocratique, dans notre incapacité à mettre les vrais choix sur la table et à les expliquer. Il se nourrit aussi des débats binaires. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, la classe politique, comme vous dites, elle regarde ça elle nourrit ça sans même élever le débat démocratique. Et donc, forcément, oui, il y a un terreau pour le Front National. Oui, j'ai une crainte. J'ai une crainte forte. Je pense que notre démocratie est en danger. Et ça appelle non pas à se projeter pour savoir comment on fera le jour où, ce que je n'espère pas et ce contre quoi je lutte de toutes mes forces, le Front National arrive au pouvoir, mais il nécessite qu'on se dise aujourd'hui comment on explique les choix à nos concitoyens, comment on obtient des résultats pour que justement il n'ait pas la tentation d'aller vers ce qui serait la passe, mais ce qui serait une catastrophe. Et donc évidemment, pour nous, le Front National n'est pas un parti. Notre République, elle ne doit pas accepter qu'un parti comme le Front National puisse un jour ne même pas concevoir qu'il arrive au pouvoir. Et pour ça, il faut agir. Il faut agir et non pas faire de la politique fiction en se demandant comment ça se passera en 2017. Nous sommes en septembre 2014. Il faut obtenir des résultats. Il faut faire baisser le chômage. Il faut que les entreprises s'impliquent dans l'investissement pour préparer demain. Et moi, franchement, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir qui sera réélu en 2017. Ce qui m'intéresse, c'est que notre démocratie, ce ne soit pas le Front National.
Et Marine Le Pen n'est pas sincère dans son nouveau discours économique. Le FN, il est passé en 20 ans d'un thatchérisme, d'un réganisme, à un discours finalement très pro-ouvrier, pro-classe populaire. C'est un discours fabriqué de toutes pièces.
Mais en fait, c'est un discours attrape-tout. Marine Le Pen. Elle a un discours attrape-tout, c'est-à-dire qu'elle elle essaye de faire plaisir à tout le monde, de toucher ce qu'il y a des fois de moins sympathique dans chacun d'entre nous, c'est-à-dire la recherche du bouc émissaire, la recherche du coupable, le discours facile économique, la sortie de l'euro, etc., qui peut, à un moment donné, toucher les uns ou les autres, mais qui n'a pas de structure, qui n'a pas d'avenir. Enfin, je crois que nous sommes à l'aube d'un choix. Nous sommes dans l'aube d'un choix. Enfin, nous sommes en plein dedans, même. Est-ce que nous voulons une société autoritaire, d'opposition les uns aux autres, de recherche du bouc émissaire, ou est-ce que nous concevons une société plus apaisée, plus coopérative, où nous faisons nous confronter les intérêts qui sont parfois divergents entre les uns et les autres pour faire émerger des compromis. C'est ce deuxième choix-là que je fais, mais pour le faire, il faut agir, il faut obtenir des résultats, il faut parler des gens, il faut les écouter, et ce n'est pas ce qui est fait aujourd'hui.
Mais c'est notamment dans les classes populaires qu'elle recrute, qu'elle a des sympathisants, qu'elle a des électeurs en la vieuse européenne, ou d'ailleurs un ancien syndicaliste a mordu la poussière face à ses concurrents FN. Est-ce que ça veut dire que la gauche n'a plus rien à leur dire, n'a plus rien à leur laisser espérer, ces classes populaires? Les syndicats aussi ont-ils leur responsabilité dans ce désamour?
Je crois que je l'ai dit, nous avons tous notre responsabilité dans la situation qui est la nôtre. La responsabilité, c'est d'abord d'écouter les salariés. Et les syndicats, ils sont pas mal placés pour le faire. Moi, je rappelle que nous sommes présents dans à peu près 45 000 entreprises aujourd'hui, entreprises et administrations. Donc, nous avons une capacité d'écouter les salariés. Mais il faut leur apporter des réponses concrètes, des résultats, et leur expliquer aussi ce qui est en train de se jouer. Ce qui est en train de se jouer, c'est soit... une société plus coopérative, je le répète, soit le chaos avec le Front National. Donc oui, nous avons une responsabilité. Mais moi, j'imagine, et j'en connais, des gens qui entendent, qui cherchent du travail, qui subissent des inégalités, et qui entendent les discours un peu faciles, un peu attrape-tout, et qui, de l'autre côté, voient une classe politique, un gouvernement, en son sein déjà, mais aussi une classe politique qui chamaille, qui fait la course à celui qui sera candidat, etc., il y a une désillusion. Et cette désillusion, il ne faut pas la prendre comme argent comptant. Il faut la combattre. La combattre, c'est d'apporter des résultats, c'est d'écouter, c'est de faire en sorte de faire comprendre que tout n'est pas à attendre de l'État non plus. Que notre démocratie, elle se nourrira aussi de résultats obtenus sur les territoires, dans les entreprises. Tout n'est pas national. Il y a aussi des initiatives locales à développer.
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, avec nous dans Tous Politiques jusqu'à 19h. On attend vos questions sur Twitter. Tous Paul.
France Inter, Tous Politiques, en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France et les signatures de la presse étrangère. Marc Fauvel.
Et pour vous interroger ce soir, donc Anna Navarro Pedro, correspondante à Paris de l'hebdomadaire portugais Visao, et Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France. Laurent Berger, la semaine a été marquée par beaucoup de choses, on vient d'en parler, et aussi par les propos du ministre du Travail, François Rebsamen. Cette petite phrase censée briser un tabou sur les chômeurs.
Aujourd'hui, si on écoute bien ce qui se dit, tout est tabou. Mais moi, je vais vous dire, je pense qu'il faut renforcer les contrôles. Quand on est chômeur, au sens du Bureau international du travail, on recherche un emploi. Et donc, c'est négatif pour ceux qui recherchent des emplois d'être à côté de personnes qui ne cherchent pas d'emploi.
En quoi c'est choquant ce qu'il dit pour vous ?
Ce qui est choquant, c'est qu'on a un ministre du Travail qui s'exprime un matin à la radio.
À la télé, je crois.
Avec 5 millions de chômeurs, avec un chômage qui augmente. Et le point sur lequel il met le doigt, c'est un point important dont on peut discuter, qui n'est pas tabou pour la CFDT, mais qui n'est pas le sujet prioritaire. Le sujet prioritaire, c'est comment on accompagne les demandeurs d'emploi, les chômeurs, à retrouver un métier. Parce que moi, je rencontre régulièrement des chômeurs qui cherchent un métier. Et donc, la CFDT, elle n'est pas pour les fraudes. D'ailleurs, les fraudes qui, bien souvent, sont des systèmes collectifs un peu de mafia et pas tant des résistances individuelles. Les contrôles, ils existent.
Sur le fond, vous n'êtes pas choqué par ces propos, vous dites.
Mais vous savez, tout
ce... Il n'a pas dit que ça dans cette interview, évidemment. Il avait parlé du chômage avant, et à un moment...
Je suis choqué qu'il essaye de stigmatiser en disant « c'est pas normal que des chômeurs ne cherchent pas du travail ». On parle de combien ? Les résultats qui ont été faits sur les fraudes parlent d'environ 1% des chômeurs, ce qui a été fait par Pôle emploi, qui seraient en situation de non-recherche d'emploi. 1%. Il y en a 99 autres pourcents qui cherchent tous les jours, qui voudraient des formations. Moi, j'ai rencontré récemment un chômeur qui m'a dit que ça faisait 6 mois qu'il attendait la formation dont il avait besoin, qui ont besoin d'un accompagnement beaucoup plus important de Pôle emploi et qui, malheureusement, les agents de Pôle emploi n'ont pas les moyens aujourd'hui parce qu'il y a un afflux de chômeurs à leur donner, qui ont besoin d'être mis en relation, etc. Et donc, ce qui me choque, c'est pas qu'on parle des contrôles. Tout le monde sait qu'il y a des contrôles. Mais les contrôles, ils doivent aller vers quoi ? Ils doivent aller vers un accompagnement, vers une aide, et pas punitif.
En l'occurrence, aujourd'hui, les contrôles, ils ne servent pas à grand-chose. On regardait les chiffres en préparant tout à l'heure cette émission. 90% des radiations, c'est quand on ne vient pas voir son conseiller de Pôle emploi. 2% des radiations, quand on ne cherche pas d'emploi. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux
radier plutôt des gens ? Pourquoi les chômeurs ne vont pas toujours voir leur conseiller de Pôle emploi ? Parce qu'ils savent que malheureusement, ces conseillers ont tellement de chômeurs à suivre qu'ils n'ont pas toujours les moyens de leur apporter les solutions qu'ils sont en droit d'attendre. Mais vous savez, j'aurais préféré que M. Rebsamen parle d'une chose, de la formation des chômeurs. À la conférence sociale de 2013, la CFDT avait proposé, pour répondre aux emplois non pourvus, un plan de formation des chômeurs vers ces emplois non pourvus. Nous avions décidé d'en faire 30 000 d'ici la fin 2013, entre juillet et décembre. Il y en a eu plus de 40 000 de fait. Il y a la moitié des chômeurs qui en ont bénéficié ont retrouvé un emploi durable. Cette année, il y en a 100 000 en prévision. Comment ça se fait ? Ça se fait par des initiatives territoriales, par des gens sur les territoires, des syndicats, l'État, les patrons qui se regroupent, ils disent c'est où les besoins ? Et Pôle emploi qui met en place les formations, notamment avec l'AFPA. J'aurais préféré qu'on parle des choses positives.
C'est intéressant ce que vous dites là, justement. Parce qu'effectivement, il n'a pas proposé autre chose. Et pour moi, étrangère, je disais cela tout à l'heure, en préparation, ça fait un petit peu
tiquer
les
gens. On va arrêter de raconter les coulisses de la préparation après.
Mais j'ai fait un petit tiquer. Mais c'est la vérité, c'est que dans l'Europe du Sud, dans mon pays, le Portugal, en Grèce, en Espagne, on a entendu cette petite musique-là. C'est-à-dire, quand on a voulu mettre en pratique une vraie politique d'austérité, et petite parenthèse, la France ne connaît pas la politique
bien
d'austérité,
sûr, je suis d'accord
pas
avec
encore.
Vous.
Vous avez été au Portugal, vous savez ce que c'est. Eh bien, quand on a voulu mettre en pratique cette politique d'austérité, on a commencé par cela. On a commencé par culpabiliser des catégories dans la société, soit les chômeurs, soit les fonctionnaires publics, soit les professeurs. On les a pointés comme boucs émissaires, on les a déclarés des nantis, et puis ensuite, derrière cela, on a installé un tel climat de peur qu'on a pu avancer avec d'autres politiques d'austérité très violentes, pour le coup. Est-ce que, peut-être, on se demande ça, dans l'Europe du Sud, est-ce que cette petite musique, ce petit la-la-la de Rebsamen, de M. Rebsamen cette semaine, n'était pas prénonciateur, est-ce qu'on peut dire ça en français ? Annonciateur, de justement une politique d'austérité beaucoup plus forte en France.
Je ne le souhaite pas. En tout cas, il a expliqué qu'il n'était pas forcément d'accord. Puis là, j'ai vu qu'aujourd'hui, il se réjouissait en disant « mais j'ai reçu des messages de sympathie des gens qui pensent ça ». Le problème, c'est qu'on ne lui demande pas d'être le relais de ce que tel ou tel pense. On lui demande d'être ministre du Travail et de faire en sorte
ça
de faire baisser le chômage.
Ça dépend d'où viennent ces messages sympathiques.
De faire baisser le chômage. Et que là, ce qui a été ressenti, moi j'ai reçu des témoignages de personnes qui étaient au chômage, me disant c'est insupportable, ça fait 6 mois, 1 an que je cherche du travail et que je n'arrive pas à en trouver, j'ai pas envie de les stigmatiser.
Mais vous ne croyez donc pas qu'il y aura une politique d'austérité beaucoup plus forte en France dans les années à venir ?
Si c'est ça, ils trouveront la CFDT sur leur route.
Ah.
Mais est-ce qu'au fond, en vous entendant, il n'y a pas un problème de la personne, François Rebsamen ? On sait qu'en plus, le travail, ce n'était pas son dossier favori. Lui, il espérait être ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il s'y est mis ? Est-ce qu'il est vraiment un partenaire efficace ? À l'écoute pour vous ? Est-ce que réellement, il est dans les dossiers ? C'est la bonne personne à la bonne place aujourd'hui ?
Je ne suis pas responsable des castings, moi. Et je ne les commande pas, en plus, comme chacun sait, ni les personnes. Il a eu le temps, là, depuis qu'il est ministre du Travail, de rentrer dans les dossiers. Donc, on peut discuter.
Il apprend, il travaille, il bosse, il connaît ses dossiers aujourd'hui.
Écoutez, je ne le suis pas au jour le jour, vous imaginez bien. Je m'occupe, moi, plutôt de la CFDT. Mais ce qui est sûr, c'est que...
Vous n'avez pas l'air convaincu, là.
Si, mais là, je suis en désaccord profond avec lui. Et comme à chaque fois, je suis en désaccord profond, je l'exprime. Et sans ambiguïté. Sur d'autres sujets, j'attends de lui des résultats. J'en attends de lui dès mardi ou mercredi à la réunion sur les 50 branches, sur le pacte de responsabilité. J'attends de lui
instants,
un discours extrêmement virulent et exigeant à l'égard du patronat.
On va parler dans quelques instants des contreparties ou pas au pacte de responsabilité, aux dizaines de milliards d'euros d'allègement de charges décidées jusqu'à la fin du quinquennat. Un mot sur la petite phrase du nouveau ministre de l'économie, Emmanuel Macron, avant sa nomination à Bercy. Il faut supprimer ce qui reste des 35 heures, c'est ce qu'il vous dit aussi en privé quand vous le voyez. Vous l'avez vu, ça y est ?
Oui, je l'ai vu.
Qu'est-ce qu'il vous dit là-dessus ?
Il y a plus de 10 jours. Là-dessus, je lui ai dit que c'était hors de question pour la CFDT de revenir sur la durée légale des 35 heures.
Et lui, il vous a répondu quoi ?
Et il a dit, c'est hors de question, j'ai fait cette interview avant d'être ministre.
Ça veut dire qu'il y a un double langage, on peut dire quelque chose avant d'être ministre et le lendemain, hop,
non, ça veut dire que quand on a une responsabilité et on représente quelque chose, et autre chose que soi-même, évidemment qu'on n'est pas forcément, on met pas forcément tout ce qu'on pense en application.
Il vous a promis qu'il ne toucherait pas aux 35 heures,
façon,
pour dire les choses clairement ?
Mais qui le demande ? Les entreprises ne le demandent pas. La question qui est posée concernant la durée du travail, c'est la question de l'organisation du travail. Parce que dans les entreprises, on ne touche pas à la durée légale, mais on a des discussions sur l'aménagement du temps de travail. Mais les entreprises ne demandent pas pourquoi, parce qu'elles n'ont pas tellement envie d'ailleurs qu'on discute en termes de dialogue social dans les entreprises sur l'organisation du travail. Et donc, moi, je pose la question, non pas de les 35 heures, c'est un non-sujet comme durée légale. La question qu'il faut poser, c'est la question de l'organisation du travail, de la conciliation.
Qui demande ça, pardon, je réponds à votre question tout à l'heure. Une partie de la droite aujourd'hui dit qu'il faut supprimer les 35 heures. François Fillon, encore tout récemment.
Mais là, ils parlent pour eux et je pense qu'ils n'ont pas été voir beaucoup d'entreprises. Vous savez, la question qui est posée, c'est la conciliation des temps aussi. Les temps de travail et hors travail sont de plus en plus perméables, notamment à cause de ce qu'on appelle la déconnexion ou pas avec les outils, les nouvelles technologies. Il y a la question de ceux qui ne travaillent pas assez et qui sont en temps partiel imposé, dont on a amélioré la situation avec l'accord du 11 janvier en augmentant la durée du temps partiel.
Bon, donc c'est un non-sujet et Emmanuel Macron a reconnu, comme vous l'avez vu, que c'était un non-sujet qui ne reviendrait pas là-dessus.
C'est un non-sujet, mais attendez, le ministre de l'économie, il a autre chose à faire. Hein. Le ministre de l'économie, il a à faire en sorte qu'il y ait un engagement, là aussi une exigence, on va y venir à l'égard du patronat.
On y arrive, c'est dans 20 secondes, allez.
Qu'on accompagne les entreprises en restructuration. Vous savez, je voudrais parler de deux entreprises,
oui.
De GAD, on attend avec impatience que le repreneur, Jean-Rosé Intermarché, dise comment vont être traités l'ensemble des salariés et les sites. Et puis, je voudrais vous parler du groupe RAP, Atlas, Fly, Crozatier, l'ameublement, qui aujourd'hui sont en liquidation judiciaire et ne donnent aucune information aux salariés. Moi, j'attends du ministre de l'économie qui mette ces patrons-là devant leurs responsabilités, notamment ceux du groupe RAP.
Henri Vernet, encore un mot sur Emmanuel Macron.
Oui,
allez, on va au parler de responsabilité
Macron,
juste
le
après.
Le ministre de l'économie, c'est un ancien banquier d'affaires de chez Rothschild. Ça a fait tiquer cette nomination à gauche. Et pour vous, quelle est votre réaction,
Laurent Berger, c'est gênant d'avoir
été un banquier d'affaires?
Non, c'est pas gênant. À partir du moment où on a été honnête et qu'on a exercé un emploi. Enfin non, vous savez, c'est là où je suis en désaccord avec beaucoup de gens. C'est les espèces d'étiquettes qu'on colle aux uns et aux autres. Vous savez, c'était la même semaine où est-ce qu'on pouvait être ministre de l'économie quand on était banquier. Puis la même semaine, c'était est-ce que l'entreprise est quelque chose de bien ou est quelque chose le mal absolu.
Et alors, faut
arrêter. Moi, j'aime bien l'entreprise. J'aime bien l'entreprise responsable. Responsable, ça veut dire un employeur responsable. Ça veut dire le respect de ses salariés, des droits fondamentaux, le dialogue social. Ça veut dire un acheteur responsable. Ça veut dire une entreprise qui respecte ses sous-traitants, qui est implantée dans son territoire, qui respecte son environnement, qui intègre les questions de transition énergétique, de production plus propre et de transport plus propre. Voilà, moi j'aime l'entreprise responsable. Et donc il n'y en a pas assez. Et mon boulot à moi, c'est de faire en sorte que les entreprises deviennent plus responsables, notamment et tout particulièrement par le dialogue social avec les représentants des salariés.
Alors justement, dans trois jours, François Rebsamen réunit les partenaires sociaux pour faire le point sur le CICE et le pacte de responsabilité. Il y a 8 milliards d'euros d'allègement déjà cette année versés dans les caisses des entreprises. Il y a deux branches sur 50 qui ont signé des accords. Ça ne marche pas aujourd'hui le CICE.
Aujourd'hui, le patronat n'a pas passé la vitesse supérieure. Ils nous ont dit, vous savez, le pacte de responsabilité, c'est des annonces en janvier, un relevé de conclusion entre certains syndicats, dont la CFDT et le patronat, le 5 mars, disant voilà les sujets qui devront être abordés, l'investissement, l'emploi, les classifications, l'apprentissage, la formation. Et puis, entre-temps, une espèce de zone de flou. Et puis, le patronat disant, on ne peut pas avancer parce qu'on ne sait pas les allègements qu'on aura. C'est maintenant fixé depuis juillet. Au Parlement pour 2015, j'y reviendrai. Le patronat doit aller plus vite. Il y a deux branches qui ont signé un accord, la métallurgie, vous l'avez dit, et la chimie. Il y en a 20 qui ont ouvert des négociations sur les 50 plus grandes. 20 qui ont ouvert des négociations, dont avec beaucoup de dates ces jours-ci. Il y en a 4 qui font un état des lieux sur la situation économique et sociale, dont les banques qui vont avoir beaucoup d'aide et qui se contentent pour l'instant, la branche patronale, de faire un état de la situation économique sociale, donc ça va pas assez vite. Et puis, il y en a 24 qui n'ont rien fait du tout pour l'instant. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Donc, moi, ce que j'attends du patronat, c'est que maintenant, il fasse sa part du boulot. Moi, j'ai fait la mienne. La CFDT a fait la sienne. Elle a dit OK pour des marges aux entreprises parce que notre situation économique est dégradée. Maintenant, la contrepartie, c'est que le patronat fasse son boulot et discute dans les branches sur l'investissement, sur l'emploi, sur les classifications.
Et sinon, il se passe quoi?
Eh bien, sinon, je vais vous dire. Parce que je demande ça au patronat et je demande au gouvernement qu'il soit exigeant. Parce qu'il soit exigeant, qu'il exige de la transparence et de l'efficacité de ces aides. Ce qu'il se passera, eh bien moi, ces aides, elles sont attribuées pour 2015 aux entreprises. J'ai refusé, la CFDT a refusé qu'elles soient attribuées, déjà inscrites dans la loi de finances pour 2016 et 2017. Je demande instamment au gouvernement de ne pas les inscrire dans la loi de finances pour 2016 et 2017. Et dans ce cas, s'ils ne sont pas inscrits, il faudra faire le bilan, non pas en termes de combien d'emplois créés, tout le monde sait que ce n'est pas aussi mécanique que ça, mais de loyauté du patronat dans les branches. Et en fonction de ce bilan, au printemps prochain, il faudra décider si le 2016 et 2017, les aides sont de nouveau allouées ou pas. C'est ça ce que la CFDT défend, c'est ça qu'elle dira mercredi, ce qu'elle a déjà dit aux uns et aux autres, mais ce qu'elle dira mercredi lors de la réunion des branches.
Même si ce n'est pas si mécanique et si simple à chiffrer, est-ce que quand même vous avez un seuil, vous avez une fourchette du nombre d'emplois qui devraient être créés ?
Mais ça dépend beaucoup des branches, si vous voulez. Ça dépend beaucoup des branches. On sait que dans la chimie, il y en a eu. Je sais que dans la plasturgie, ils ont pris, même s'il n'y a pas d'accord pour l'instant, mais des engagements en termes d'augmentation du nombre d'apprentis. C'est par exemple un sujet prioritaire pour nous. Mais si vous voulez, c'est dans les branches. On va pas, avant de faire les négociations dans les branches, sortir un chiffre. Moi, je ne me suis pas baladé avec un pins. Je ne crois pas que l'économie marche comme ça.
Donc un million d'emplois, c'est un pur slogan.
Ah ben là, je crois que c'était un slogan, en tout cas. Je crois.
Il n'en reste pas moins qu'on a déjà peut-être à mi-chemin de l'application du crédit d'impôt.
Compétitivité emploi.
Merci Marc. C'est cela.
C'est ça.
Bien, on a déjà quand même un petit bilan à mi-étape. Et qu'est-ce qu'on voit ? D'abord que les entreprises ne se pressent pas au portail pour en bénéficier. Il y a 8 milliards qui ont été grosso modo alloués. Et là-dessus, on ne sait pas trop comment ça a été éventé, comment ça a été ventilé, qui en a bénéficié, c'est aller où. Les premières observations nous disent, vos confrères et amis de Force ouvrière qui disent que c'était un épandage dont on ne connaît pas trop les tenants et les aboutissants. Des observateurs externes nous disent que c'est aller surtout à la trésorerie des entreprises. Ben, ce n'est pas ça qui fait que la France sorte cette croisée des chemins que vous nous avez décrit en début d'interview.
Mais vous savez, sur le CICE, nous, on a fait on a incité nos équipes, on les a équipées pour qu'elles aillent demander, comme c'est prévu dans la loi, au comité entreprise, l'utilisation du CICE. On a tout.
Pardonnez-moi, il ne donne aucune formation au comité d'entreprise.
Mais ça dépend lesquels. Ça dépend. Pas assez. Hein. Je ne vais pas les défendre, mais pas assez. Mais on a quelques exemples d'entreprises qu'on fait. Mais il va avoir un bilan de fait, un rapport parlementaire par un député sur l'utilisation du CICE. Et en octobre sera installé l'observatoire de toutes les aides publiques aux entreprises, qui était une demande de la CFDT, mais pas que la CFDT, d'autres syndicats aussi. Toutes les aides aux entreprises, dans le cadre de France Stratégie, vont être observées pour regarder quel est leur degré d'efficacité. Et c'est bien normal, au moment où on réduit les dépenses publiques, qu'on demande aux entreprises que les aides qui leur soient attribuées soient efficaces. Peut-être devraient-elles être d'ailleurs mieux ciblées. Je suis d'accord avec ça. Mais sur le CICE, vous savez, hein, quand une entreprise nourrit sa trésorerie plutôt que de supprimer des emplois, pourquoi pas ? Quand ça permet de sauvegarder des emplois, pourquoi pas ? C'est entreprise par entreprise qu'il faut regarder. C'est entreprise par entreprise. La question, c'est est-ce qu'il a été assez ciblé ? Est-ce que les patrons sont transparents ? Et c'est ça le problème, c'est que ce n'est pas transparent. Et donc, moi, je demande de la transparence et de l'efficacité. Et on verra dans l'observatoire s'il y a besoin de revoir le dispositif.
Cette question, Laurent Berger, il y a quelqu'un d'autre qui la soulève aujourd'hui même, celle de ce qu'on a arrosé trop large finalement les entreprises. Est-ce qu'il fallait davantage cibler cette personne, vous savez qui c'est ?
Martine Aubry.
Exactement, on l'écoute sur Europe 1.
Aider les entreprises, oui, mais celles qui en ont besoin. Les artisans, les commerçants, les PME, les entreprises qui sont soumises à la concurrence internationale, sans casser la demande, c'est un équilibre difficile et il faut essayer de le trouver en réorientant cette politique vers ses objectifs. Il y a des chefs d'entreprise qui ont besoin d'aide, c'est ceux qui sont dans la concurrence internationale. Et puis on n'a pas besoin d'aider les banques. Voilà, par exemple, qui, elles, ne sont pas dans la concurrence internationale. On n'a pas besoin non plus d'aider les entreprises qui préfèrent verser l'argent que leur a donné l'État pour donner des dividendes plus importants, ce qui m'a profondément choquée, alors que notre pays va si mal, au lieu d'investir dans l'avenir et dans l'emploi et dans la formation.
Aubry, Berger, même combat. Il faut arrêter de verser de l'argent aux banques, Laurent Berger ?
Non, mais en tout cas, moi, je suis d'accord avec ce qui est dit, c'est-à-dire que les aides aux entreprises, elles ne peuvent pas se retrouver dans des dividendes, mais elles doivent être utilisées pour la création d'emplois, pour la formation des jeunes, pour l'investissement.
Laurent Berger, mais ça fait 8 mois que vous nous dites ça. Oui, mais il faut qu'il y ait des contreparties. Les contreparties ne sont pas écrites.
Ça fait 8 mois.
Il y a deux branches qui ont signé sur 5 ans. Et on voit qu'aujourd'hui, les 8 milliards, de l'aveu même de Michel Sapin, n'ont pas créé d'emploi en France. On en a peut-être sauvegardé quelques-uns.
Vous avez raison que ça fait 8 mois, mais tout simplement parce qu'il y a un des acteurs qui aujourd'hui n'est pas rentré sur le terrain pour faire sa part de boulot.
C'est le patronat uniquement. C'est pas au gouvernement de rappeler un peu.
Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit que c'était le patronat qui devait faire sa part de boulot et que le gouvernement devait être exigeant. Je crois avoir été assez clair sur ce que j'ai demandé au gouvernement à la matière, c'est-à-dire de, et à la fois de donner les aides pour 2015, mais pas plus, dans le cadre du pacte de responsabilité, en tout cas de ne pas les inscrire dans la loi plus, et puis de mettre en œuvre cet observatoire des aides pour faire le bilan. Voilà, vous savez, il ne faut pas non plus demander à des politiques qu'on n'a pas menées pendant des années d'avoir une efficacité dans les 6 mois. Ça aussi, c'est un mal très français, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, on met une plombe à faire un certain nombre de réformes, puis quand elles rentrent en application, on voudrait que dans les 6 mois, ça a produit tous les résultats.
Les dividendes, elles sont tombées, hein?
Non, les dividendes
elles sont arrivées tout de suite.
Oui, mais vous savez, ça aussi. Hein. Et mettons les choses. Oui. Évidemment, moi je l'ai dit dès le départ, qu'il n'était pas question que ces aides servent à verser des dividendes. Mais regardons aussi les dividendes versés dans certaines entreprises. Des fois, c'est parce que c'est des entreprises qui travaillent beaucoup à l'étranger et c'est là où se crée un certain nombre de richesses. Mais ceci étant, oui, évidemment, il ne faut pas que ça serve aux dividendes. Mais vous savez, il ne faut pas stigmatiser. Il y a combien d'entreprises qui versent des dividendes? Celle-là, il ne faut pas qu'elles le fassent avec ces aides-là. Et puis les autres, il faut regarder comment elles l'utilisent, comment ces aides sont efficaces, je le répète.
Et vous tapez donc du poing sur la table aujourd'hui, oui aux aides en 2015, non à partir de 2016, s'il n'y a pas enfin des contreparties.
Bien sûr, mais bien sûr, je l'ai toujours dit dès le départ.
C'est ce qu'on aura entendu. Henri Vernet du Parisien.
Mais ce partenaire, ce patronat qui ne fait pas son boulot, pourquoi? Parce que finalement, Pierre Gattaz se comporte en enfant gâté, il n'est pas dans une perspective de vrai partenariat, il ne joue pas le jeu.
Non, mais je crois que longtemps, ils ont estimé qu'il leur fallait une visibilité sur les aides telles qu'elles allaient être versées. Je crois qu'ils l'ont aujourd'hui. Ah oui. Moi, maintenant, je crois qu'il faut arrêter d'être dans la demande et il faut être dans la responsabilité. Et donc, je demande au gouvernement, oui, de dire au patronat, mais nous leur disons aussi qu'il faut maintenant poser des limites et s'engager. C'est dans les branches. Et si ça ne se fait pas, bah, j'ai dit comment on aborderait les sujets.
Vous nous décrivez des entreprises, enfin, un millier d'entreprises absolument paradisiaques, c'est ce qui serait souhaitable. Les entreprises responsables, vertueuses.
J'ai dit ce que je voulais. Je ne vous les décris pas telles qu'elles sont aujourd'hui.
La réalité est inatteignable, semble-t-il, sans qu'il y ait un cadre, un encadrement. Et mettons entre le bâton et la carotte, qu'il y ait aussi le bâton et pas seulement la carotte. Et vous dites aussi que le patronat français, c'est une expression que je n'avais pas employée maintenant, mais que je vous ai entendue souvent, il doit faire sa révolution culturelle.
Oui.
C'est assez marrant de lui prôner une démarche politique maoïste, puisque qu'est-ce que vous entendez par là? Quels sont les défauts du patronat français? Qu'est-ce que vous attendez de lui?
C'est de ne pas avoir réfléchi suffisamment sur ce qu'était une entreprise. Vous savez, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que moi, je dis que j'aime bien l'entreprise quand elle est responsable. Et c'est presque devenu tabou. Ça aurait pu... la majorité en place, en tout cas le gouvernement, a dit qu'il fallait aider les entreprises. Mais je crois qu'il faut que le patronat fasse son évolution culturelle. J'ai parlé d'évolution culturelle, pas de révolution, mais son évolution culturelle en considérant que l'entreprise est bien une propriété sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas un patron et un actionnaire. Ce sont aussi des salariés, ce sont des parties prenantes.
Pierre Gattaz vient dire de temps en temps, j'aime les salariés, comme Manuel Valls dit, l'entreprise.
Non, c'est pas, je ne demande pas ça. Simplement que
ça
de reconnaître qu'il y ait des salariés et surtout qu'il faut plus de dialogue social.
Ce dont souffrent
les entreprises. Le dialogue social, c'est un rapport de force, mais c'est un rapport de force constructif. Ce dont souffrent les entreprises, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de dialogue social. C'est qu'on ne mette pas suffisamment sur la table les choix stratégiques, les choix économiques et les choix sociaux à faire. Et que du coup, on soit un peu, et on a cantonné. Cette vision-là, elle a cantonné le syndicalisme dans un rôle de pompier. Moi, je ne veux pas. Nos équipes CFDT, elles ne veulent pas être des pompiers. Elles veulent être des parties prenantes dans l'entreprise, respectées et porter la voix des salariés et l'intérêt des salariés. Il n'y a pas d'entreprise sans salariés. Et c'est ça que j'appelle à faire une évolution culturelle, à considérer que l'entreprise est bien une propriété sociale et pas simplement un actionnaire et un patron.
Henri Vernet.
Emmanuel Valls, c'est le bon arbitre pour ça. Il n'est pas un petit peu en faveur des patrons quand il dit j'aime l'entreprise.
Mais ça, on verra aux actes. Hein. Mais ceci étant, moi, j'ai aussi entendu dans ce fameux discours qu'a suscité un débat un peu surréaliste, j'ai entendu dans ce discours une fin de discours, et vous pouvez la reprendre, en disant maintenant, votre responsabilité, c'est vous, quoi. C'est à vous d'assumer la responsabilité. Il y a une part du boulot qui a été faite parce qu'il y a des aides attribuées. Maintenant, il faut que vous fassiez la vôtre. Ben moi, là, j'attends Manuel Valls à ce que maintenant, il se donne les moyens d'être exigeant avec les entreprises pour qu'effectivement, avec le patronat, pour qu'effectivement, dans les entreprises, il y ait de l'investissement, il y ait de la création d'emplois, il y ait de la formation et l'embauche de jeunes en apprentissage.
Donc, vous attendez le bâton de la part de Manuel Valls.
Mais moi, je ne suis pas dans une logique de carotte et de bâton parce que ça serait considérer que les salariés n'ont pas d'intérêt dans leur entreprise. Vous savez, hein, ce qui est frappant, c'est qu'on se fait des débats dans certains endroits sur est-ce qu'il faut aimer ou pas l'entreprise. Mais les sondages, il y a un sondage qui a montré qu'il y a 78% des salariés qui sont fiers de travailler dans leur entreprise et qu'il y en a plus de il y en a 65% qui la recommanderaient à un proche. Donc, il faut arrêter d'avoir une vision négative d'entreprise. La seule question, il y a aussi des salariés qui souffrent au travail, qui ont un mal-être au travail, et qui, surtout des salariés qui ont le sentiment de ne pas être reconnus. Et pour ça, il faut plus de dialogue social, il faut plus les écouter.
Avant d'en venir dans un instant au travail dominical, question de Nicolas Moreau sur Twitter. Que pensez-vous ? Tiens, on a parlé des 35 heures. Que pensez-vous des 32 heures, Laurent Berger, de partager le travail pour résorber le chômage ? Ça, c'est une idée complètement enterrée aujourd'hui.
Non, ça dépend, parce que ce n'est pas enterré dans un certain nombre d'entreprises. On l'a fait dans un certain nombre d'accords d'entreprises. Mais ce qui est sûr, c'est que la vision de la réduction du temps de travail, ce que porte la CFDT sur la semaine, n'est pas forcément l'angle d'attaque aujourd'hui. J'ai plutôt parlé d'organisation du travail, de conciliation des temps. Nous, on est en train de réfléchir notamment à c'est un peu utopique, mais à un compte social personnel qui permettrait, pendant la carrière, de prendre des années de recul, des années sabbatiques, etc. Donc, ce qu'il faut reposer, c'est la question de l'organisation du travail tout au long de la carrière, dans la semaine aussi, mais tout au long de la carrière.
Le travail dominical, donc le rapport Bailly, il y a quelques mois, proposait de passer de 5 à 12 dimanches travaillés par an. Vous mettez où le curseur, vous, aujourd'hui, à 5, 6, 7, 8, 9 ?
D'abord, 12, c'est trop. On l'avait dit à M. Bailly au moment de la concertation. Nous, ce qu'on met d'abord comme curseur, c'est que le travail du dimanche, qu'on soit bien d'accord, ça reste une exception. Et que ce soit sur la base du volontariat. Que ça concerne et que, en fonction des salariés, enfin, pour les salariés concernés, il y ait des contreparties
donc, en mieux payé sur la base du volontariat. Et combien de dimanches par an ?
Ça sera à discuter dans les branches, parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est des discussions dans les branches ou les territoires sur le sujet. Mais on l'avait dit, 12, c'est trop. Donc, moi, je vais pas le faire, parce que si jamais dans une branche, la CFDT dit que c'est 8, ben, je vais pas lui dire si j'ai 17 qu'elle a fait une erreur. Je vais dire ça. Moi, je crois beaucoup au dialogue social, donc je crois à la capacité des gens de faire émerger ce qui est bien pour eux. Mais vous savez, il faut que ça concerne les contreparties pour les salariés, tous les salariés.
C'est dur, les contreparties, hein.
Il faut, en termes de salaire, mais aussi en termes de transport, en termes de sécurité, parce que des fois, il y a des questions comme ça qui se posent, de garde d'enfants. Mais il faut que ça concerne les salariés des toutes petites entreprises aussi. Et puis aussi ceux des activités qu'on dit connexes. Par exemple, vous savez, quand un magasin ouvre, il y a quelqu'un à la sécurité. Bah, cette personne, elle travaille le dimanche aussi. Bah, il doit être concerné par un salaire plus élevé, par des aides aux gardes d'enfants, etc.
En même temps, beaucoup de jeunes, par exemple ici en France, m'ont signalé que pour eux, c'est important de pouvoir travailler les week-ends, le dimanche, donc, et tard le soir, parce que c'est pour eux la façon de financer leurs études. Donc, comment tenir compte, justement, de ce souhait d'une partie importante, d'une classe d'âge qui est extrêmement importante pour ce pays ?
Mais en disant qu'on n'est pas contre le travail du dimanche, s'il reste une exception et s'il est encadré.
Mais les jeunes ont besoin de travailler dimanche toutes les semaines.
Mais vous savez, il y a beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas ouvrir le dimanche ou le magasin parce que ce n'est pas rentable. Vous savez, ça ne concerne que quelques zones géographiques. Donc, il faut une réflexion par zone géographique, il faut éclaircir ça. Et après, il faut des contreparties. Je veux dire, je le répète, ça doit rester l'exception. Ça doit rester l'exception, et sur la base du volontariat, et là, il y aura des jeunes pour le faire, ou des moins jeunes, dont acte. Mais vous savez, les entreprises, elles n'ouvrent les magasins, elles n'ouvriront les commerces que s'il y a un intérêt économique. Ne l'oublions pas.
Laurent Berger, le patron de la CFDT, invité de France Inter jusqu'à 19h. Vos questions pour quelques minutes encore avec le hashtag TousPaul sur Twitter.
France Inter, tous politiques. En partenariat avec Le Parisien, aujourd'hui en France, et les signatures de la presse étrangère. Marc Fauvel.
En voici une de questions posées sur Twitter par Thomas. Que pense M. Berger du projet de réforme des professions réglementées, notaires et autres, portées par Arnaud Montebourg, puis désormais par son successeur Emmanuel Macron ? Il faut tout chambouler ?
Bah, il faut surtout avoir en tête que moi, je ne suis pas contre, a priori, qu'on garde les professions réglementées. Mais il faut regarder quand même l'impact sur les salariés concernés. Je pense notamment à ceux des professions judiciaires ou de la pharmacie. Il ne faudrait pas que ce soit les salariés, les dindons de la farce à la fin, quoi. Et donc, faudra regarder avec les branches professionnelles concernées. Mais là-dessus, pour l'instant, il y a une concertation, ou peut-être pas avec les professionnels. Il n'y en a pas eu avec les salariés concernés. Et ça ne peut pas se faire sans les salariés, ça. Il faut écouter ce que sont leurs craintes, peut-être ce que sont leurs souhaits aussi, en l'occurrence. Mais je le répète, pas non a priori, mais pas si on ne regarde pas l'impact social de ces réformes.
Henri Vernet.
Aujourd'hui, est-ce que la CFDT n'est pas un petit peu la jambe de bois de Hollande et de Valls, c'est-à-dire vous jouez le jeu donc, du pacte de responsabilité? Ce n'est pas le cas de vos confrères, notamment de la CGT qui appelle à une journée d'action le 16 octobre. Y participerez-vous?
Non, je ne crois pas, mais en même temps, nous avons un bureau national dans 10 jours maintenant, donc c'est le bureau national qui décidera, mais...
Pourquoi non? Pourquoi ne pas
s'associer à cette journée? Il y a des questions sur Twitter qui vous sont posées, Laurent Berger. J'attends, nous dit un auditeur, un appel à la mobilisation contre les attaques prévues au Code du travail.
Non mais d'abord, parce que ce n'est pas la CGT qui fixe la date et qui demande aux autres de venir.
Donc on a des contacts avec... Pardon, mais c'est des bisbis syndicales.
Nous avons des contacts. On s'est eu plusieurs fois avec mes homologues depuis le début de la rentrée, depuis mi-août. On peut discuter. On souhaite discuter du fond avec eux. Et puis deuxièmement, parce que nous, notre mobilisation, vous savez, c'est dans les entreprises. En ce début d'année scolaire, nous allons continuer ce que nous avons fait. C'est-à-dire dans les entreprises, là où il y a des difficultés, mais aussi en termes d'embauche de jeunes. On veut mobiliser nos équipes sur le sujet, de mobilisation sur la transparence des aides, du CICE notamment, et puis sur les questions d'emploi, de travail et de salaire dans les entreprises. Nous, on croit que c'est là où le syndicalisme est attendu, pas tant dans des journées massives, même si de temps en temps, et on fera encore la CFDT, il faut le faire.
Question sur l'Europe et sur la possible nomination de Pierre Moscovici à la Commission européenne. Anna Navarro-Pedro.
Oui, alors tout le monde lui attribue en France le portefeuille de l'économie. À l'étranger, peut-être on traîne un peu plus des pieds parce que la personnalité même de M. Moscovici est peut-être plus sujette à réticence de la part de ses partenaires européens. Est-ce que vous croyez quand même, s'il a in fine ce portefeuille, vous croyez que c'est vraiment l'homme de la situation pour la France, qu'il pourra obtenir un assouplissement des règles, des déficits, des pourcentages de déficit à atteindre? Est-ce que vous croyez que c'est l'homme qui va sauver la France des foudres de Bruxelles?
Non, mais moi j'aimerais que les commissaires, même s'ils viennent de différents pays, ils ne soient pas les représentants de leur pays à Bruxelles. Ce n'est pas leur boulot d'ailleurs, c'est leur boulot des chefs d'État et des représentants des gouvernements. Hein, il sera responsable européen. Après, moi, je l'ai dit, je ne commande pas les castings. Ce que je demande, moi, à l'Europe et donc au gouvernement français. D'ailleurs, j'ai écrit à M. Valls là-dessus, en disant qu'il faudra, avant le sommet, notamment du 6 octobre, sur la croissance...
Sommet sur l'emploi et la croissance, sommet européen.
Il faudra que vous consultiez les organisations syndicales sur le sujet. Moi, ce que je lui demande, c'est d'abord d'aller vers cette politique d'investissement en Europe sur l'infrastructure, sur la transition énergétique, l'investissement économique et social. La Confédération européenne des syndicats le demande depuis plus d'un an maintenant. Donc, et allons sur ce plan d'investissement. Deuxièmement, oui, il faut infléchir le rythme de baisse du déficit public.
Il faut enterrer définitivement l'objectif de 3% avant la fin du quinquennat.
On l'enterrait ou pas, entre nous, j'ai l'impression que ça allait être
on
compliqué.
Le fera pas.
Mais ceci étant, non, mais il faut le réfléchir.
Mais il faut le brandir comme un étendard désormais. Il faut dire qu'on ne le fera pas parce que sinon...
Mais là aussi, il faut, si je peux me permettre, élever le débat. Vous savez, il faut la baisse des déficits publics, personne n'est contre. Parce que ça obère notre avenir, ça obère notre capacité d'investissement. Mais là, aujourd'hui, le rythme, il pèse sur les politiques de solidarité à l'égard des plus fragiles. Il pèse sur les politiques de service public, avec une situation dans les fonctions publiques qui est très, très dure. Et puis, il pèse sur l'investissement public dans les collectivités territoriales et donc sur l'emploi et la croissance. Donc, il faut infléchir. Et puis, troisième point, il faut des politiques de solidarité en Europe plus fortes, notamment sur les jeunes. Il y a eu 6 milliards de dégagés sur la garantie jeunes en Europe. Nous en demandons 20 ou 25 milliards. Parce qu'il y a un objectif emploi des jeunes.
C'est en train de bouger, Laurent Berger, tout doucement, les propos de Mario Draghi, le patron de la BCE.
Oui, tout à fait, c'est un bon signe. Tout à fait, les propos de Mario Draghi sont un bon signe. Maintenant, il faut que les politiques le mettent
L'Europe
en place.
L'Europe est un peu moins allemande dans sa façon de penser.
Mais ça, c'est
vous allez me dire qu'il faut élever le débat.
Non, je vais vous dire que c'est pareil caricatural. C'est une question qui concerne toute l'Europe. Le chômage des jeunes en Italie, c'est 42%.
Permettez-moi juste ajouter que les taux d'intérêt, que le déficit à 3% au Portugal, en Espagne, en Grèce, ça a provoqué des morts, des gens qui en sont
bien
morts,
sûr,
des politiques
bien sûr,
d'austérité.
C'est parce que sa
Donc,
ce n'est
pas un débat... De bas étage.
Bien sûr, tout à fait. C'est un débat extrêmement important. C'est pour ça que je le mène. ça a créé des politiques d'austérité. Et ce qu'il ne faut pas en France, c'est qu'on en arrive là. Et pour ne pas en arriver là, il faut revoir les objectifs.
Merci Laurent Berger, merci d'avoir été avec nous ce soir, secrétaire général de la CFDT. Ana Navarro Pedro du grand hebdomadaire portugais Visão était à mes côtés, de même qu'Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France, à la technique Serge Viguier, Florent Layani et à la préparation de Tous Politiques Marie Boéda. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même antenne. Très bonne soirée sur Inter.